crois que je vais aussi prier pour ce moment maintenant, pour ce temps de prédication. Je n'ai pas envie de dire je vais prier pour moi, mais je vais prier pour moi. Parce que j'en ai besoin, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce temps. Je te remercie parce qu'on a la possibilité de s'arrêter devant ta parole, à tes pieds pour apprendre à te connaître, à te chercher, à te ressembler. Notre exemple. Je te demande, Seigneur, que ce soit seulement tes paroles qui sortent de ma bouche. Je te demande de les purifier. Et je te demande aussi pour chacun d'entre nous de leur donner la capacité de faire la différence, de ne prendre que ce qui vient de toi. Je te demande, Saint-Esprit, de convaincre les cœurs. Donne-nous la crainte de ton nom. Apprends-nous la crainte de l'Éternel. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit parce que je sais que tu es là. Je te bénis Éternel et je me confie en toi. Amen. J'ai pris l'habitude d'aller marcher en fin de journée, chaque fois que j'en ai la possibilité. Et puis durant ces moments où je vais me promener, je prie. Il fait tellement beau ces derniers temps, ces dernières semaines. C'est tellement génial. Et en même temps, j'ai envie d'être en communion avec mon Seigneur. J'ai envie d'être en communion avec Jésus, mais il fait tellement beau que je n'arrive pas à entrer dans ma chambre, fermer la porte et prier dans le lieu secret. J'ai besoin de sortir. Alors je vais marcher, pratiquement tous les jours. Et durant toute ma marche, je prie. La prière me presse. La communion avec le Seigneur Jésus me presse. Le voir agir dans mon église, dans notre église me presse. Ma ville, ma région, les montagnes neuchâteloises, le salut de tous ces gens qui habitent ici me presse. Hier, à un moment de ma promenade dans les pâturages, j'ai demandé un texte au Seigneur, juste un verset pour commencer le culte. Et voilà ce qui est venu dans mon esprit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Waouh! J'étais en train de m'approcher d'un banc, je m'y suis installée, j'ai demandé, mais c'est vraiment ça le verset? Et en attendant la réponse, j'ai observé, ou plutôt admiré, la création. J'ai admiré ce que j'avais devant les yeux, j'avais des arbres, j'avais nos merveilleux pâturages. Je regardais le feuillage, je regardais la beauté, la force qu'il y a dans un arbre, tout simplement. Et ça a inspiré ma louange, ça a inspiré mon adoration. Et j'ai ressenti combien le Père nous a aimés en nous créant. Il a d'abord créé les cieux, puis la terre, avec tout ce qui s'y trouve, pour que la vie humaine soit possible. Tout ce que le Seigneur a disposé sur cette terre, c'est pour que nous puissions vivre. Chaque arbre, chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque bestiole, chaque nuage, chaque caillou, chaque lopin de terre, les étoiles, la lune, le soleil, les saisons, etc. Tout a été fait et disposé pour nous, tout. Et ensuite, il nous a créés. Il nous a conçus dans son cœur. Et déjà à ce moment-là, il nous a aimés. Il avait déjà tout disposé, son jardin de délices était prêt. Il n'avait plus qu'à nous malaxer, à nous pétrir, à nous façonner. Il nous a chéris de toute l'abondance de son amour débordant. Il nous a désirés. Il a fait de nous des créatures merveilleuses. Il a mis en nous un potentiel de gloire inestimable. Encore aujourd'hui, à chaque naissance, le Père se réjouit de cette nouvelle vie. Nos vies sont tellement précieuses à ses yeux. On est tellement précieux à son cœur, chacun d'entre nous, chacun. Et il nous a déposés dans son jardin. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Chacun d'entre nous. Nous avons tous cédé à la tentation. Il n'y en a pas un qui a résisté. Nous avons tous été corrompus par le poison du péché. Tous privés de la gloire de Dieu, tous privés de sa sainte présence, de la conscience tangible de son amour. perdus, incapables de nous sauver nous-mêmes. Je réfléchissais à tout ça sur mon banc. Seigneur, tu me demandes vraiment de commencer par ce verset. Mais si vous êtes ici ce matin, c'est que vous connaissez la suite du passage. On est dans Romains 3, 23, 24, 25. Tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Non seulement Dieu nous a créés avec science, avec intelligence, avec amour, avec affection, avec passion, mais il a encore donné son propre Fils. Il nous a donné Jésus en sacrifice pour nous sauver. Son amour, il déborde, son amour, mais il ne peut pas contenir son amour. Son amour, il déborde de lui, c'est à profusion, à tel point que son Fils, son propre Fils, il l'a sacrifié. Il ne l'a pas juste donné, il a accepté la torture de son Fils. Il a accepté qu'il soit séparé de lui. Il a accepté qu'il descende dans le séjour des morts. Il a accepté cette souffrance-là. Bien sûr, Jésus est ressuscité. C'est pour ça que vous êtes là. Donc Jésus est notre victime expiatoire. On l'avait déjà vu une fois quand on parlait du sang de la Sainte Seine. Jésus a déposé son propre sang entre notre péché et la sainte présence de Dieu. Et lorsque le Père nous regarde, lorsqu'il nous écoute, qu'il écoute nos prières, c'est au travers du sang de Jésus que ça se passe. Alors, il ne voit plus notre péché, mais il nous voit purifiés. Il nous voit justifiés, il nous voit lavés, il nous voit saints, il nous voit justes. Nous sommes non coupables. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux couvrait les fautes. Mais celui de Jésus va beaucoup plus loin. Il les enlève. Et bien plus encore. Dans Colossiens 1:20, Dieu a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé à la croix. L'histoire de toute l'humanité, c'est cet amour de Dieu manifesté en Jésus. L'histoire de l'humanité n'a pas sa raison d'être sans la croix de Jésus. Nous avons péché, nous étions séparés de la gloire de Dieu et Jésus, par son sang, nous réconcilie. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons échappé à la colère. Quand quelqu'un est en colère contre nous, on a besoin d'être réconcilié. On a besoin que cette colère, elle s'arrête pour se réconcilier. Et le sang de Jésus, il a fait en sorte que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Nous sommes réconciliés avec le Créateur, avec celui qui a créé les étoiles, l'univers, les galaxies. C'est énorme ce que Dieu a fait et nous sommes réconciliés avec lui. Jésus, par son sang, a nettoyé notre esprit. Donc le contact a été rétabli. On a de nouveau accès au trône de Dieu par nos prières. Nous savons que nous avons un avenir éternel. Nous savons que nous allons le passer à ses côtés. Nous savons en espérance que nous sommes déjà assis à la droite de Christ dans les lieux célestes. Notre espérance est glorieuse, c'est merveilleux. Ce que Jésus a fait, c'est merveilleux. Cool la vie. Je suis chrétienne, je suis sauvée, je vais au ciel. Alléluia. Et les autres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui sont encore contaminés par le péché sont privés de la gloire de Dieu. Ici, maintenant et pour l'éternité. Leur avenir est en enfer avec tous les démons qui y sont déjà et qui sont enchaînés et tous ceux qui vont les rejoindre. Ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, vous les croisez tous les jours. Vous les croisez dans la rue, vous les croisez au travail, à la Migros, à la COP, et peut-être même aussi dans votre famille. Il y en a plein dans cette ville. Mais nous allons rester bien au chaud dans notre super église, pleine de fraternité, sympa. On a passé un temps merveilleux de louange. Moi, à un moment donné de la louange, j'avais l'impression d'entendre les démons les démons manifestaient de rage et d'impuissance, tellement notre louange était forte. Il y a eu un moment donné dans le chant, c'était impressionnant. Je sentais dans les lieux célestes le combat qu'il y avait. Mais est-ce qu'on va se contenter de ça? Est-ce qu'on va rester là où on en est parce qu'on est sauvé? Amen. Ou est-ce qu'on va aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est difficile pour un chrétien suisse. Je suis suisse, née à La Chaux-de-Fonds, au 6e étage de mon lieu de travail. Bref. C'est difficile pour un chrétien suisse de mesurer la grâce dont il a bénéficié. Nous avons tellement tout ici. C'est une grâce. En même temps, c'est une grâce. Moi, je remercie le Seigneur chaque fois que je vais me coucher, d'être dans un lit, d'avoir chaud et de savoir que je ne serai pas dérangée par des gens méchants qui ont veulent à ma vie. Mais je suis reconnaissante. Je suis contente d'avoir de l'eau chaude. J'ai appris à Madagascar ce que c'est de ne pas en avoir. Ni chaude, et parfois, ni pas du tout. C'est génial ce qu'on a. C'est vraiment de la grâce. Et je remercie le Seigneur. J'aimerais pas qu'il me l'enlève. Mais le fait d'avoir tout fait qu'on met notre confiance dans ces choses-là. Et on oublie ce que le Seigneur a fait. On a du mal à comprendre cette grâce dont nous avons bénéficié. En fait, on n'arrive pas à mesurer que le salut est notre bien le plus précieux. Et ce qui est terrible, ce qui est encore plus terrible, c'est que l'orgueil nous tenaille. Bien plus que pour d'autres peuples. Et particulièrement ici à La Chaux-de-Fonds. Les Chaux-de-Fonniers, on n'est pas bourgeois comme à Neuchâtel. Mais on est bien plus orgueilleux. Moi, j'ai l'impression que dans le bas, ils gèrent leur bourgeoisie, ils gèrent leur identité de Neuchâtelois. Mais nous, on est tellement orgueilleux. Et ça se manifeste de plein de façons, entre autres les critiques. On est très fort pour ça. Et l'orgueil, on sait que Dieu résiste aux orgueilleux. On sait qu'il fait grâce aux humbles. Donc l'orgueil fait qu'on n'est pas très efficace. Qu'on regarde à notre nombril, à nos besoins, etc. Et le fardeau des âmes, il existe, bien sûr. Mais lorsque notre confort passe avant, on se trompe de priorité. Et c'est valable au niveau personnel, mais parfois c'est aussi valable au niveau de l'Église ou de notre vie communautaire. Où est-ce qu'on met nos priorités ? Est-ce que le salut des âmes, est-ce que le salut de notre ville, là où le Seigneur nous a placés, est notre priorité? Et comment est-ce qu'on fait? On n'a pas tous reçu l'onction de l'évangélisation. Alors pour ceux qui ne l'ont pas reçu, comment est-ce qu'on fait? Moi, je sens dans mon cœur que le Seigneur a des projets pour nous. Mais surtout pour cette ville et cette région. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés. Ce n'est pas seulement nous. Et Dieu veut nous utiliser. Il ne peut pas faire un réveil si ses serviteurs ne sont pas réveillés et si ses serviteurs ne collaborent pas avec lui. Ce n'est pas possible. Dieu a besoin de nous parce que c'est ce qu'il a choisi, c'est ce qu'il a décidé. Il ne va pas aller contre sa volonté. Il a des projets qui nécessitent l'engagement de chacun d'entre nous. Alors revenons un petit peu en arrière. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux, il a aussi créé les anges. Il a créé les lieux spirituels, les lieux célestes et les êtres spirituels. Il leur a donné un rôle, il leur a donné une position hiérarchique, il leur a donné un environnement glorieux. Et ils étaient tous dans la gloire de sa présence, accès direct à Dieu. Mais Lucifer s'est rebellé, il s'est enorgueilli, vous connaissez l'histoire. Il avait une position élevée, il était un leader de louange. Mais il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. C'est l'orgueil qu'il a pris. Et à cause de ça, il a été déchu de ses fonctions. De sa gloire, il a été précipité sur la terre. Et il a entraîné le tiers des anges avec lui. Sur des myriades de myriades, ça fait beaucoup d'anges. Tous précipités. Et une partie sont déjà enchaînés, une autre partie nous pourrisse la vie. On ne peut pas imaginer l'ampleur du combat spirituel qui a eu lieu à ce moment-là. Au moment où Satan a été précipité, mais ça a été une guerre terrible. D'ailleurs, on pense savoir à quel moment ça s'est passé. La plupart des théologiens disent que ça s'est passé entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. à cause de la chute de Satan, à cause de ce combat, la terre a été glacée. Il y a eu une glaciation. Les géologues le savent, ça a été prouvé. On a même retrouvé des mammouths en Sibérie avec encore du foin, de l'herbe dans la bouche, des troupeaux d'animaux qui n'étaient pas en fuite. Ils avaient une position paisible en train de manger et ils étaient congelés. Ça veut dire que cette glaciation, elle s'est faite d'une manière extrêmement subite. Parce que ça a été tellement terrible, Satan a été vraiment projeté sur la terre et tout s'est glacié, tout s'est gélifié. Et le verset 2, c'est « La terre est devenue ». Si on prend le texte original, plutôt que « La terre était informe et vide », non, Dieu ne crée pas les choses informes et vides, « La terre est devenue informe et vide » à cause de cet événement-là. Et tous les versets qui suivent, c'est la restauration de la terre. Le Saint-Esprit couvre les eaux. Quand il y a marqué « il planait au-dessus des eaux », c'est le même mot que « couver », comme une poule qui couvre ses œufs, ses petits. Et donc le Saint-Esprit réchauffe ses eaux. Et petit à petit, on voit Dieu qui restaure les lois physiques. Il restaure toutes choses. Il remet tout le système en place pour que la vie humaine soit possible sur la terre. Et ensuite, Dieu crée l'être humain, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il le dépose dans ce magnifique jardin propice à la vie humaine. Mais Lucifer, qui est devenu Satan, il continue le combat. Il est hors de lui, il est rebelle, il est orgueilleux, il est arrogant. Il séduit l'être humain, il pervertit son âme, il souille son esprit. Il pervertit la création et tout ce qu'il peut. Il met tout en œuvre pour empêcher qui que ce soit d'adorer Dieu. En fait, il sait. Il sait que nous allons au ciel et il sait qu'au ciel, nous allons prendre sa place. Et c'est déjà ce que nous faisons chaque fois que nous louons le Seigneur. On fait ce que lui faisait. C'est insupportable, ça le rend fou. Mais il a été vaincu. Par le sacrifice de Jésus, il a été vaincu. Le truc, c'est que pour l'instant, il n'est encore pas enchaîné. Pour l'instant, il n'est encore pas hors d'état de nuire. Ce temps-là, il est fixé, il est décidé par le Père. Mais il n'est pas encore arrivé. Et pendant le temps qui lui reste, Satan fait tout ce qu'il peut pour nous embêter. Nous, les chrétiens, pour nous empêcher d'adorer Dieu, de faire notre service, de gagner des âmes, etc. Et toutes les personnes qui sont encore privées de la gloire de Dieu pour qu'ils ne trouvent jamais le salut. On est dans un combat, mes amis. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Et tous là où nous sommes, nous avons une influence. Parce que Jésus nous a rachetés, mais il nous a aussi équipés. Regardez dans 2 Pierre 1, les versets 3 à 4. Sa divine puissance, la divine de Dieu, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Donc nous avons toutes les qualifications pour servir le Seigneur. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, sa gloire et sa force, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption. Donc résister au péché qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Vous avez déjà lu ce verset ?
Non.
Participant de la nature divine. C'est merveilleux. Je ne sais pas quel mot il faut dire. C'est merveilleux. Notre nature était devenue une nature de péché et par le sang de Jésus, nous voilà participants de la nature de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous. J'ai la nature de Dieu en moi. Je n'ai plus comme père le diable, mais je suis fille du Dieu vivant. Je ne suis plus du monde, je suis citoyenne des cieux. Ma nature a changé, j'appartiens à Dieu. J'ai en moi la nature divine. C'est merveilleux, mais il y a plus encore. Dans Apocalypse 1, 5, 6, depuis le milieu du verset 5, c'est une chanson qu'on connaît bien. C'est une chanson que les plus anciens connaissent bien. Les jeunes, je ne sais pas. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Par son sang, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Vous connaissez le chant ?
Non.
Jésus a fait de nous par son sang un royaume. Nous ne sommes plus du monde, nous sommes un royaume. Nous sommes des princes, nous sommes des rois et des reines. Ces termes qui sont utilisés dans la parole, ça veut dire qu'on est des chefs. C'est ça que ça veut dire. On a tous l'autorité de Jésus. Mais nous sommes aussi des sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sacrificateur du tabernacle nous enseigne. Nous pouvons y comprendre le rôle du sacrificateur en regardant tous les éléments qui se passaient. Ce rôle n'est plus le même aujourd'hui, mais on peut vraiment tirer des parallèles. Simplement, il n'y a plus de sacrifice d'animaux parce que Jésus est notre sacrifice. Il s'est donné une fois pour toutes et son sacrifice a agi encore aujourd'hui. Mais il faut comprendre que le sacrificateur s'occupait des choses de Dieu. Il était médiateur entre le peuple et Dieu. Alors tout d'abord, il était choisi selon les prescriptions de Dieu. Nous sommes choisis. Et seul le sang de Jésus fait de nous des sacrificateurs. Personne ne peut s'établir sacrificateur s'il n'a pas reçu le sang de Jésus. Le sacrificateur, il était consacré, il était mis à part. Dieu nous a mis à part en nous sortant du monde. Et nous, nous devons nous mettre à part en refusant le péché, en refusant de continuer la pratique du péché. Nous sommes un peuple saint, une nation sainte, un peuple élu. On ne peut plus continuer à pécher. Donc Jésus nous a mis à part, il nous a consacrés. Nous avons notre part à faire. Il faut vraiment qu'on comprenne notre rôle. Parce que nous sommes dans un combat. Mais le sacrificateur, il sait qu'il est, qui il est et qui est le Dieu qu'il sert. Alors il monte au front, il se défend et il attaque. En résistant à la tentation, en choisissant le bien, en travaillant son caractère, sa sanctification. Les sacrificateurs, ils étaient reconnaissables par leurs vêtements. Ils avaient une grande robe avec beaucoup de choses dessus qui avaient des significations. On ne pouvait pas se tromper. Quand on regardait le peuple et puis qu'il y avait le sacrificateur parmi eux, on pouvait dire « celui-ci, c'est le sacrificateur ». Nous aussi, nous devons être reconnaissables. Nous devons être reconnaissables par notre éclat. Nous devons briller. C'est le Seigneur qui nous a dit « vous êtes la lumière du monde ». Donc, notre sacrificature, elle commence déjà là. Est-ce que je brille? Même quand je me tais, est-ce que je brille? Je ne parle même plus d'aller évangéliser. Mais est-ce que mes attitudes font que les gens sont interpellés et qu'ils ont envie de connaître ce que j'ai en moi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « Comment tu fais? Tu es toujours serein, tu es toujours paisible. Comment tu fais? Tu critiques jamais. » Est-ce que ça t'arrive de te mettre en colère? C'est fou, j'ai l'impression que tu aimes tout le monde. J'aime bien être avec toi. Je me sens en sécurité, je ne sais pas pourquoi, mais t'as quelque chose. Ça vous est déjà arrivé? C'est des choses qu'on doit rechercher. On doit rechercher à briller. Parce que quand on interpelle les gens puis qu'ils viennent nous poser ces questions ou qu'ils nous disent « j'aimerais bien avoir ce que tu as », là, on peut évangéliser. Même si on n'a pas reçu l'onction d'évangélisation, notre attitude, elle montre, mais elle, lui, il est différent. Et ça, c'est important. Moi, dans mon travail, je suis soumise à beaucoup de stress, de pression et de gens pas contents. C'est un peu mon métier, en fait, c'est de gérer tous ceux qui ne sont pas contents, que ce soit les patients, les familles, les médecins, les infirmières, la pharmacie, le service technique, etc., etc. Et puis, des fois, j'y arrive et des fois pas. Puis, avant mes vacances, je commençais à être vraiment fatiguée. Et j'entrais dans le stress, donc c'était très difficile de rester paisible. Et je suis allée dans une boutique d'une personne qui fait des choses magnifiques de décoration, et il y avait un tout petit cadre, un petit machin comme ça, où il y avait juste marqué dessus « Chaque instant est précieux ». Je l'ai acheté, je l'ai collé au coin de mon ordinateur, vu que j'y passe pas mal de temps, et je m'exhorte avec ça. « Chaque instant est précieux ». Il n'y a pas un instant qui ne l'est pas, donc chaque seconde, je dois me maîtriser et il faut que Jésus se glorifie en moi. Donc quand les gens ne sont pas contents, Seigneur aide-moi, qu'est-ce que je lui dis? Ça ne vient pas tout seul, mais ça s'entraîne, ça doit être une mentalité, ça c'est une partie de ma sacrificature. Les sacrificateurs donc étaient médiateurs entre le peuple et Dieu. Nous le sommes par notre intercession. Nous le sommes par notre prière. Si nous voulons gagner notre ville à Christ, c'est là que ça commence. Enfin non, ça commence par ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça en fait partie aussi. C'est la prière, chacun chez nous, dans le secret, c'est la prière dans les petits groupes, dans les groupes de maison, c'est la prière en église. C'est la prière les mardis soirs. J'ai été tellement encouragée ces derniers mardis parce qu'on voit que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre et on va toujours dans la même direction. On est unis, à chaque fois on est unis. Ça ne part pas dans tous les sens les prières. Ce n'est pas une liste à commission où on débite des choses, pas du tout. La dernière fois, on a eu un temps de supplication. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive, supplier le Seigneur. On a supplié pour notre Église déjà, qu'elle se réveille, qu'elle se bouge, qu'on ne se contente pas de ce qu'on a. On est reconnaissant de ce qu'on a, mais il faut plus. Il faut qu'on s'élargisse, il faut pousser les murs, il faut qu'on déménage. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il faut, il faut qu'on touche les gens qui sont dans la ville. Il faut qu'ils viennent, qu'ils entendent parler du Seigneur et qu'ensuite, eux, ils aillent aussi évangéliser. On a supplié le Seigneur. Et c'est des choses qu'on est en train d'apprendre. Et si vous voulez le salut de votre ville, levez-vous en tant que sacrificateur dans la prière, dans l'intercession. On ne pourra rien faire sinon. Même si on trouve des super locaux, on ne pourra rien faire. Et moi, je pense que si on ne se lève pas, on ne les trouvera pas, ces locaux. Ça commence maintenant, de toutes les manières. Ça bouillonne dans mon cœur. J'ai tellement d'espérance pour cette ville. Je sais que ça vient. Mais j'aimerais tellement sentir ça dans le cœur de tout le monde. Ah ! Le médiateur, il intercède pour les perdus, pour ceux qui sont privés de la gloire de Dieu, mais il intercède aussi pour ceux qui ne le sont pas. Chacun d'entre nous, on peut vivre des moments difficiles. Il y a des gens qui sont malades, on est devant des défis, des fois on a simplement de la peine à résister au péché. Enfin, je vais pas vous faire la liste. Mais le sacrificateur, il intercède aussi pour les siens et aussi pour ceux qui sont sauvés. Le sacrificateur, il avait une tiare, un turban sur la tête. C'était une marque d'autorité. Vous avez l'autorité du Seigneur sur vous. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que sacrificateur, vous avez l'autorité. Parfois, quand on prie, on est timide. On se dit, mais est-ce que le Seigneur va me répondre? Je vais prier pour la guérison, mais je sais bien qu'il ne va pas guérir. Non, il faut qu'on prenne conscience que nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité de Dieu. Pas pour prier n'importe comment, puis pas pour se mettre une pression si le Seigneur ne me répond pas, je suis nulle. Non, ce n'est pas ça. Mais on doit s'exercer. On doit s'exercer. Dès qu'on prend conscience, notre foi, elle augmente. Et c'est notre foi qui fait activer les choses. C'est notre foi qui déplace les montagnes. Alors c'est important de comprendre qu'on a cette autorité du Seigneur sur nous. C'est Dieu qui nous dit qu'on est des sacrificateurs, hein. C'est sa parole. Il ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas. Le sacrificateur, il accomplissait toutes les choses du culte, la louange aussi, l'adoration, la reconnaissance. Chaque fois qu'on offre notre louange, c'est bien. Mais chaque fois qu'on le fait en se rendant compte de qui on est, je suis sacrificatrice du Dieu vivant et j'offre ma louange. Je sais que je suis positionnée dans les lieux célestes et qu'il y a des forteresses qui tremblent. Et il y en a qui s'effondrent. Quand on prend conscience de ça, on a même de l'autorité dans notre louange, dans notre adoration. Et ça fait aussi bouger les choses, ça change les circonstances. Ça, c'est un réflexe aussi que j'ai mis en place avant de prier, avant d'intercéder pour quoi que ce soit. Je prends le temps de louer le Seigneur. Quand j'ai un défi devant moi, plutôt que dire « Oh Seigneur, aide-moi pour ça. Oh Seigneur, oh t'as vu ça, et puis j'ai besoin de ça, puis j'ai besoin de ça. » C'est « Seigneur, je loue ton nom. Seigneur, je te bénis. Tu es tellement bon, tu es tellement grand. » Et de commencer la louange, il y a tout qui se détend. Et ensuite, quand je commence à intercéder, je suis déjà tellement positionnée dans l'atmosphère du ciel que moi, déjà, j'ai la paix, que je suis plus efficace et que si c'est pour des défis qui me concernent, j'arrive à aller de l'avant. Ça s'est passé hier soir, par exemple. Entre 21 et 22, je savais qu'Alain était en vacances, mais j'ai appris que le prédicateur d'aujourd'hui avait eu un problème de train d'Avignon. Il devait revenir ici pour toute la journée pour prêcher. Et ensuite, demain, il devait prendre l'avion pour retourner chez ses parents. Et il y a eu un problème de train qui fait que vu que j'avais la présidence, il m'a appelé. Il m'a dit, je suis confus, il était dans tous ses états, mais mon train est en partant, enfin, ne s'arrête plus jusqu'à Paris. Et je ne sais pas comment faire, il était entre 21 et 22 heures. Voilà, j'ai dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça aurait pu être pire. C'était pas une raison grave, c'était un problème de transport, c'est ok, tout va bien. Et quand tous les téléphones ont été finis, on a pas mal correspondu aussi avec Estelle. Seigneur, je loue ton nom. On a un petit peu parlé avec Reed, qui c'est qui prêche, qu'est-ce qu'on fait, c'est lequel qui. Et puis hop, c'était parti. Ok Seigneur. Et plutôt que de dire aide-moi, j'ai rien, qu'est-ce que je vais faire? Il y a juste un moment de flou, puis après je me suis dit non, tu te calmes. D'abord tu pries. Et je suis allée prier, je me suis agenouillée devant Dieu. Je l'ai remercié, je l'ai loué, je l'ai adoré. Et la suite est arrivée. Vous en ferez ce que vous voulez, mais moi je sais que le Seigneur il m'a aidée. Et la louange, l'adoration, ça fait partie de notre sacrificature. Nous devons offrir notre louange au Seigneur, mais nous pouvons aussi être un sacrifice vivant. C'est ce qu'il nous demande d'être, nous offrir tout entier. Là, c'est un énorme sujet qu'on ne va pas développer, mais être un sacrifice vivant. Le sacrificateur, il pourvoit aussi à ce qu'il y ait toujours de l'huile dans la lampe, dans le tabernacle. La présence du Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit, nous l'avons toujours avec nous. Et il faut l'utiliser. Et il faut lui demander son aide, toujours. Le sacrificateur, il s'occupait aussi des pains de proposition. Le sacrificateur, il se nourrit de la parole. Il se nourrit de la parole et ensuite il l'utilise pour son service. Que ce soit l'enseignement, la prédication, c'est ce qu'il y a de plus bateau, mais que ce soit pour évangéliser, pour juste semer des petites choses à des gens qui ne connaissent rien. On ne peut pas tout leur balancer d'un coup, mais quand on connaît la parole, on peut juste semer des graines. Et ces graines, elles germent. Donc, où que vous soyez, quel que soit votre appel, vous devez vous nourrir de la parole et l'utiliser, la mettre en pratique. Je ne vais pas allonger, on pourrait parler longtemps de la sacrificature. J'ai juste ma conclusion quand même. Mais si je suis pleinement consciente de mon identité de sacrificatrice, alors je vais essayer de remplir mon mandat avec un maximum d'efficacité. Ce n'est pas juste dans un domaine, c'est dans tous les domaines. Dès que je me lève le matin et juste avant de m'endormir. Parce qu'on est dans un combat. Et moi, l'ennemi, je suis bien résolue à le terrasser. Selon mes capacités, selon les capacités que le Seigneur me donne, au maximum de mes possibilités, l'ennemi, je le terrasse. Amen. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. La portée du sang de Jésus. Elle dépasse de loin la guérison de nos maladies et la solution à nos problèmes. Elle est éternelle, spirituelle, glorieuse, puissante. C'est énorme. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés, mais il aime aussi ceux qui se perdent. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour influencer le monde qui nous entoure, là où Dieu nous a placés, où que ce soit. Il nous a tout donné. Tout ce qui est nécessaire pour faire la différence. On a l'équipement. On ne peut pas se débiner. Alors prenez conscience. Prenez conscience que vous étiez privé de la gloire de Dieu. Prenez conscience de ce que vous êtes devenu, participant de la nature divine. Un peuple saint, une race élue, un royaume. Terrassez l'ennemi, gagnez des âmes. Ne perdons plus de temps. On va s'arrêter là. Je vais demander à Sam, tu peux venir au piano, je vais demander à Sam de juste jouer quelque chose de doux, juste pour nous aider à nous concentrer. Et puis nous allons passer à la Sainte Cène. Et ce que je vous propose, c'est de rester concentré sur cette sacrificature, sur votre identité de sacrificateur. Qu'est-ce que ça signifie? Essayez de faire le point. Où est-ce que vous en êtes? Demandez au Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous savez déjà très bien les points que vous devriez travailler. Pour d'autres, ce n'est peut-être pas clair. Demandez au Saint-Esprit. Demandez simplement au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu désires? Étalez votre cœur devant lui et faites le point. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être ce sacrificateur? Est-ce que j'ai envie de consacrer ma vie à Dieu? Est-ce que j'ai envie de gagner ceux qui sont privés de la gloire de Dieu? Faites simplement le bilan. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Il a remercié Dieu le Père. Il a rompu le pain Il était avec ses disciples et il leur a dit, ceci, ce pain, c'est mon corps. C'est mon corps brisé pour vous. Prenez-en tous. Il a aussi pris une coupe et il a dit que cette coupe, c'était la nouvelle alliance en son sang. Cette nouvelle alliance qui fait de nous des sacrificateurs. Il a remercié le Père. Il a dit, cette coupe, c'est mon sang. Buvez-en tous. C'est marqué dans la parole qu'il ne faut pas prendre le repas du Seigneur indignement, parce qu'on pourrait s'attirer un jugement contre nous-mêmes. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est justement le point. Et quand on prend conscience de ce qu'on aimerait mettre en ordre, c'est justement le moment de prendre la Sainte Cène. Seigneur, je te remercie. Seigneur Jésus, en ton nom, je sanctifie ces éléments, je sanctifie ce pain qui est sur cette table et je proclame que c'est ton sang, c'est ton corps, ce pain, c'est une nourriture spirituelle. C'est ton corps qui vient demeurer en nous, nous qualifier et nous donner tout ce dont on a besoin pour notre marche sur la terre. Je sanctifie ce jus de raisin, c'est ton sang. C'est le sang de la nouvelle alliance, c'est ton sang qui nous purifie, qui fait de nous des sacrificateurs pour Dieu ton Père. Un royaume, des princes, des rois et des reines, une race élue, un peuple saint. Et je te rends gloire. Jean Toussaint, je te demanderai de remercier le Seigneur pour le pain. Et puis, je vais demander à Gabriel, est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour le sang ? Ce que je vous propose, c'est que toutes les personnes qui ressentent cette envie, ce désir d'être un sacrificateur, qui influence le monde qui l'entoure, que toutes ces personnes-là se lèvent et prennent la Sainte Cène debout. Ce sera une marque, ce sera un signe, un témoignage devant Dieu pour dire, Seigneur, moi je veux m'engager. Ça ne veut pas dire que vous avez encore toutes les capacités ou que c'est ce que vous faites déjà à 100% ou à 200%, mais ça veut dire, Seigneur, c'est ce que je veux, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans tel ou tel domaine. Mais maintenant, il y a quelque chose qui doit changer. Je dois passer à l'étape supérieure. Et je vous exhorte à continuer à prier jusqu'à ce que le pain et que le vin arrivent jusqu'à vous. Je te demande de déverser ta puissance dans chacune de ces personnes qui se sont levées. Je te demande que, en buvant ton sang, ce breuvage spirituel, ils reçoivent la force dont ils ont besoin, qu'ils reçoivent la purification dont ils ont besoin, qu'ils reçoivent tes révélations, qu'ils sont réconciliés avec toi, qu'ils sont oints, qu'ils sont des sacrificateurs du Dieu vivant. Je te demande que ta puissance se répande dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Je te demande, Jésus, que l'œuvre de ton sang se fasse pleinement, que la puissance de ta résurrection se manifeste dans leur vie. Je te demande, Seigneur, de les couvrir de ta protection. Couvre-les de ton ombre. Couvre-les de tes ailes. Que l'autorité de ton sang soit une protection sur eux, sur leurs pensées, sur leur âme, sur leur esprit, sur leur corps. Là où ils vont aller, que ce soit au travail, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans des études ou dans toute autre chose, à l'école, je te demande que ton sang les revête. Saint-Esprit, je te demande de leur rappeler jour après jour l'engagement qu'ils ont pris ce matin. Et je te demande de leur montrer comment passer à la vitesse supérieure. Comment monter un échelon? Qu'est-ce que ça concerne pour leur propre vie? Qu'est-ce que ça concerne pour leur caractère? Qu'est-ce que ça concerne pour leur consécration? De quelle compréhension de la parole ils ont besoin? Quel comportement est-ce qu'ils doivent changer? Quelle habitude ils doivent abandonner? quelle audace ils doivent prendre dans la prière, quelles sont les personnes que tu mets sur leur cœur, comment prier pour les gens qu'ils croisent dans la rue, quand ils vont faire leurs courses, comment bénir, comment être une lumière dans tous ces lieux que leurs pieds vont fouler. Montre-leur Saint-Esprit, révèle-toi à eux. Et Père, je te demande de les bénir, qu'ils puissent sentir que tu es OK, que tu es d'accord, que leur démarche est selon ton cœur et dans ta volonté. Merci de les équiper encore et de les faire marcher dans tes voies, qu'ils distinguent quelle est ta voie, qu'ils soient complètement équipés. Merci Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'adore, tu es merveilleux. Merci Seigneur. Les sacrificateurs, ils donnent de leur vie. Nous, on va donner de notre porte-monnaie. C'est aussi un sacrifice. C'est un sacrifice de louange. C'est un sacrifice de louange de donner de ce qu'on a.
Amen.